Après avoir réfléchi sur notre rapport à Dieu, aux frères et sœurs dans la foi, dans l'exercice des dons spirituels et dans l'expression de notre amour, je vous invite aujourd'hui à nous arrêter sur notre rapport à l'État, aux autorités civiles, à la culture dans laquelle nous vivons. Alors nous pouvons nous contenter, si je puis dire, de traiter les paroles que l'apôtre nous adresse, mais ce serait comme un peu mettre le microscope sur le poil d'un éléphant sans rien connaître de l'animal lui-même. Je vous propose donc plutôt de partir d'une vision plus large et de rétrécir la perspective chemin faisant. Parce qu'il y a une question bien précise qu'en tant que chrétien, nous devrions dans la pratique nous poser. Quel type de rapport devons-nous entretenir en tant qu'Église avec le monde qui nous entoure? Il est même possible que vous ne vous soyez jamais posé la question et envisagé les conséquences. Et pourtant, nous connaissons tous ces deux paroles fondatrices de notre Seigneur quant à notre rapport au monde. Et nous allons prendre la première. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Et puis la seconde, vous vous rappelez, c'est quand Jésus comparait devant Pilate, le représentant justement de l'État romain, donc un représentant de l'État. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. On connaît ces deux paroles, mais en fait, que veut-il dire exactement Jésus quand il s'exprime? Mis à part que le royaume dont il est le roi n'a pas encore pour vocation d'être instauré sur terre, car il faut encore que la prédication de la parole et l'œuvre de l'Esprit se manifeste, que ses citoyens, que nous sommes, reçoivent leur acte de naissance à ce royaume, et que l'Église, ses disciples présents et à venir, n'appartiennent plus, ne font plus partie spirituellement du royaume, pardon, du monde dans lequel ils vivent, mais bien du royaume de Dieu. Ça, on a compris, je pense, de ces deux textes. Oui, mais est-ce que ça ne va pas un peu plus loin? Ça ne nous donne rien, ça ne nous dit rien vraiment de très pratique quant à ce que nous devons, les relations que nous devons entretenir avec le monde dans lequel nous sommes. Comment donc l'Église et la société dans laquelle elle vit doivent coexister? Alors vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'Église, en 2000 ans d'existence, a eu plusieurs types de réponses de mise en pratique de cette parole de son Seigneur. Je vous propose donc de commencer par là, passant en revue les différentes approches au monde, à la culture ambiante, à l'État qu'a préconisé l'Église au cours de ces 20 derniers siècles. Alors, ne croyez surtout pas que faire ça, ça revient à parler du passé. Certaines approches, de nombreuses même, existent encore aujourd'hui, consciemment ou non, sous différentes formes. Et il est vrai que nous ne sommes parfois pas conscients nous-mêmes de ce que nous vivons et pourquoi nous le vivons de telle ou telle façon. Je vais essayer pour ma part de rendre tout ça le plus digeste possible et dans cette perspective, laissez-moi vous présenter les choses simplement, pour commencer. Certains chrétiens pensent que le message de l'Église devient de nos jours, et ce pour diverses raisons, incompréhensible pour les gens de l'extérieur, et que par conséquent, il faut l'adapter toujours plus à la culture. D'autres pensent au contraire que l'Église est déjà trop influencée par la culture et qu'il faut chercher à faire face de manière plus incisive aux tendances de la société contemporaine. La plupart des responsables d'Église se situent quelque part entre ces deux pôles, mais ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les degrés d'opposition à la culture ou d'adaptation à celle-ci qui sont nécessaires. Tout cela pour conséquence que l'Église se fragmente aujourd'hui, au-delà même de ses traditionnelles différences dénominationnelles et théologiques, sur la question de quelle façon et jusqu'à quel point devons-nous nous impliquer dans la culture. C'est probablement le sujet le plus controversé de nos jours. Alors ce que je viens d'évoquer est valable dans toutes les cultures, où que nous soyons sur la planète, mais les réponses s'ajusteront en fonction ou pas de ces cultures. Donc, pour le dire autrement, être chrétien aux États-Unis n'est pas la même chose qu'être chrétien en Europe. Ça, je pense que vous avez compris. Et même aux États-Unis, être chrétien dans un des États du Sud appelé la Bible Belt n'est absolument pas la même chose que d'être chrétien dans l'État de New York. Ce sont deux réalités, deux cultures différentes. C'est de l'expérience que fit Francis Schaeffer, un missionnaire protestant évangélique qui s'installe en Europe à la fin des années 40. Schaeffer a donc commencé à dialoguer avec des jeunes adultes profondément sécularisés déjà à l'époque, Le genre de personne qui n'existait pas vraiment aux États-Unis à ce moment-là. Il a dit ceci lors d'un des rapports qu'il rendit par la suite sur son travail. J'ai été impressionné de constater que bon nombre d'étudiants non chrétiens que j'ai rencontrés sur le continent européen non seulement ne croient en rien, mais ne se sentent même pas en mesure de poser les jugements nécessaires pour ne croire en rien. Enfin, ils croient en rien, mais ils ne savent même pas pourquoi ils ne croient en rien. On est donc à la fin des années 40. Hein. Il s'agit d'un manque de confiance en la notion même de certitude qui va au-delà de l'athéisme matérialiste. Pour eux, le monde est un ensemble de particules volantes, sans rapport les unes avec les autres, et ils ressentent en eux à la fois la nécessité de fuir et de ne pas bouger. Un exemple parmi d'autres, hein, de choc culturel. La plupart des éthiques chrétiennes sur l'Église et son rapport au monde se fondent en fait sur, merci ma chérie, ces différentes approches. J'ai pris les principales. Hein. Je ne dis pas qu'on les fera toutes, mais... Donc, la première notion de rapport au monde, c'est ce qu'on appelle la chrétienté ou le transformisme. On appelle ça le transformisme aujourd'hui. Bon, j'expliquerai aujourd'hui ce que c'est le transformisme. Ça n'a rien à voir avec les gens qui changent de vêtements très vite. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors, l'autre notion, l'autre rapport que l'on peut avoir au monde en tant qu'Église, c'est la notion des deux règnes. Alors ça, c'est Saint Augustin qui l'a théorisé et puis ça a été repris par Martin Luther, entre autres. Puis il y a la notion, le rapport à l'autorité des magistrats, Romains 13, hein, qu'on verra, qui est le texte que nous devrons finir par voir. Ça, c'était plutôt le positionnement de Calvin. L'Église et l'imitation du Christ, ça, c'est les anabaptistes qui ont cette position. La loi de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la théonomie, ça vient du grec nomos, la loi, et théos, Dieu, donc la loi de Dieu. Et l'Évangile, sans aucune distinction des règnes, dont les règnes étant le monde et le royaume de Dieu. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Ça, c'est une autre approche, une autre notion de rapport avec la culture, l'État et tout ce qui constitue l'environnement dans lequel l'Église est placée. Donc, commençons par le commencement et intéressons-nous à ce que dit la Bible de notre problématique, sachant que c'est sur elle que s'appuient les uns et les autres pour défendre leur position. C'est toujours comme ça. Alors, toutes ces positions ont des forces et des faiblesses. Elles sont donc toutes possibles et donc toutes respectables. Il ne s'agit pas de jeter ici l'anathème sur qui que ce soit. Il nous suffira d'éviter simplement, comme souvent, les extrêmes, parce que forcément, il y a des extrêmes. Il existe dans l'Ancien Testament de nombreux textes, vous le savez, qui relèvent plus ou moins directement du politique et du social. C'est le cas du Pentateuch, de la Torah, donc des cinq premiers livres de l'Ancien Testament, qui régulent et rythment la société en Israël et en définissent la culture. C'est parce qu'ils ont reçu la loi de Dieu qu'Israël devient le peuple qu'il devient. Israël de l'Ancien Testament est donc un peuple qui est implanté dans une culture qu'il a lui-même participé à créer au travers de la Torah. Mais il y a aussi, par exemple, les livres bibliques qui nous relatent les responsabilités qu'ont assumées certains membres du peuple de Dieu au sein de gouvernements d'autres nations. Je pense par exemple à Daniel, qui a de grosses responsabilités à la cour des Mèdes et des Perses et à la cour du roi de Babylone. Et aussi Joseph, rappelez-vous, qui a été ministre à la cour de Pharaon en Égypte. Ensuite, il y a tous les livres historiques. Le livre des Juges, celui de Samuel, les Rois, les Chroniques, qui nous dépeignent successivement des régimes politiques et culturels différents au sein de la nation juive. Dans le livre des Juges, malgré la loi de Dieu, les tribus d'Israël vivent un peu comme elles l'entendent. D'où le refrain rythmant s'est écrit « Chacun faisait comme il lui semblait bon ». Puis vint la monarchie, période pendant laquelle le pouvoir était réparti entre trois personnages. La justice, la politique et la guerre au roi, le culte au grand prêtre et la révélation de la pensée biblique, divine plutôt, au prophète. Mais une chose reste valable dans les trois sphères. C'est la loi de Dieu qui doit servir de maître étalon. Nous sommes donc toujours en présence d'une théocratie, mais représentative puisque ces trois personnes ne sont supposées agir que comme représentants de Dieu et selon sa volonté exprimée dans la loi de Moïse. Alors, ça n'empêchera pas les rois idolâtres, les grands prêtres intéressés et les faux prophètes. Et ensuite viendront encore l'occupation et enfin la déportation. Tous ces régimes ont été marqués par la volonté de s'éloigner de Dieu d'une façon ou d'une autre. Le peuple de Dieu, ça il faut retenir en arrière-plan, hein, le peuple de Dieu n'a donc pas réussi le test d'une société et d'une culture basée sur la loi de Dieu et sur ses principes. Ça, il faut retenir, c'est important. Par rapport à certains modèles que nous allons examiner ensemble, le simple fait de dire que même Israël n'a pas réussi à vivre, à faire société autour de la loi de Dieu, alors qu'elle l'avait reçue, ça doit nous rester bloqué quelque part. On doit conserver cette notion pour bien comprendre les autres. L'Israël biblique a donc connu tous les régimes que connaîtront les autres nations au cours de leur histoire, à l'exclusion, bien entendu, de la démocratie. Même si la séparation des pouvoirs, comme en Israël, est devenue l'un des principes de ce type de gouvernement. En démocratie, normalement, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Donc cette notion ne vient pas de nulle part non plus, il fallait que je le place. Ça me paraît important. Donc la culture, peu importe laquelle, est donc marquée par le péché, même celle supposée se fonder sur Dieu et sa parole. Ça, il faut aussi bien le retenir. Alors, pour le Nouveau Testament, c'est sensiblement différent. Celui-ci ne s'exprime jamais vraiment sur un régime politique qui serait souhaitable. La réalité, c'est qu'Israël est occupé et qu'une partie importante des autorités juives de l'époque est à la solde de l'occupant romain. On est donc très loin du paradis sur terre. C'est dans ce contexte que l'Église se développe au sein de l'Empire romain. Il existe donc bien un régime en place, bien réel, et ce malgré l'avènement du royaume de Dieu dans les cœurs de ses enfants, un régime, l'Empire, inaccessible aux chrétiens. Aucun chrétien de l'époque ne pouvait avoir accès à quelque fonction que ce soit au sein de cet empire. Ils n'ont pas accès aux postes dans l'administration, car ceux-ci sont souvent incompatibles avec l'éthique chrétienne, et il suffit de se rappeler que Matthieu, le collecteur d'impôts, qui devint un des disciples de Jésus, a dû abandonner sa fonction pour pouvoir le suivre. Mais à d'autres moments, Lazare, qui est un autre collecteur d'impôts qui se convertit, lui, de toute évidence, garde sa fonction, il s'engage simplement à la remplir d'une manière plus juste. Même chose quand Jésus est abordé par un soldat romain, Jésus ne dit pas « tu dois arrêter ce que tu fais ». Il dit simplement, là encore, ne profite pas de ta situation pour commencer à opprimer des gens, etc. Là encore, il faut rester juste dans l'exercice de ta profession. Alors, il y a eu bien entendu parfois des chrétiens dans l'entourage même de l'empereur. Ça, c'est arrivé, on le sait, on a des sources. Mais ceux-ci, une fois découverts, étaient soit jetés en prison, soit livrés aux fauves, pauvres bêtes, soit, au cas où ces personnes appartenaient à une grande famille de l'aristocratie romaine, ce qui arrivait, ces gens étaient exilés sur une île quelconque, loin du pouvoir et loin de la vue de l'empereur. Les textes du Nouveau Testament semblent d'ailleurs nous éclairer davantage sur la façon de considérer cette société et de vivre dedans que sur la possibilité de la faire évoluer dans le bon sens. Ça, il faut le relever quand même aussi. D'ailleurs, il faut ajouter que, texte à l'appui, les chrétiens constituant l'Église primitive s'attendaient à un retour prochain de leur Seigneur. Quand je dis prochain, c'est peut-être dans leur génération. Beaucoup, dans les écrits, on discerne dans les écrits de Paul, entre autres, et de Pierre, on discerne cette attente fervente. Ils sont sûrs, quasi certains, que leur Seigneur va revenir. Le temps est proche, comme le disait Paul. Donc la réflexion sur la société dans laquelle ils vivaient et ce qu'ils pourraient éventuellement y faire ne devait pas beaucoup les préoccuper. Mais le retour tant attendu, tardant, c'est pas facile à dire ça, ils durent finalement y réfléchir. On ne vit évidemment pas de la même façon lorsqu'on est sur le départ ou si l'on s'installe pour un certain temps. Cela a même impacté la lecture traditionnelle de certains enseignements de Jésus, le fait qu'il ne revenait pas tout de suite. En effet, de nombreux enseignements de notre Seigneur comportent une grosse charge eschatologique. Le jugement arrive, je vais revenir, je vais partir, je serai ressuscité, je retournerai vers mon Père, mais je reviendrai, il y aura le jugement, etc., la salvation du royaume. Mais il y a une très très grosse charge eschatologique, vous devez vous repentir, parce que malheur à vous si je reviens et vous n'êtes pas, etc. Oui, mais quand il tarde à revenir, qu'est-ce qu'on fait de tous ces textes ? Donc l'Église a appris en avant une lecture dans le cadre d'une Église qui allait devoir s'installer dans une société qui n'était plus la sienne. Bon, je prends cet exemple. La parabole du semeur, c'est, vu le contexte, vraiment typiquement une parabole qui parle de la conversion et de la nécessité de se convertir. Mais suite à cette, ce retour tardif de notre Seigneur, ben, l'Église a commencé une nouvelle lecture et que la parole, ben, ça s'adresse aux chrétiens aussi qui doivent ouvrir leur cœur pour la recevoir, etc. On a perdu au fil du temps le côté eschatologique et d'urgence de cette parabole. On l'a récupéré à la Réforme, hein, mais pendant quelques siècles, on en a perdu le sens premier. Puis de là vient aussi sans doute les lectures allégoristes, hein, Origène en tête, enfin, qui voient un sens spirituel à tous les textes qu'il fallait apprendre à discerner, etc. Plus tard, et pour des siècles, et au travers parfois de bien des turpitudes souvent indignes de son Seigneur, la place de l'Église dans l'Empire romain et dans le monde va changer. Et il deviendra dès lors possible pour elle, pour l'Église, d'avoir son mot à dire sur quasi tous les sujets. Et en rapport à notre sujet, aucune parole de Jésus n'a fait couler plus d'encre que celle-ci. Je sais qu'on l'a déjà abordée dans la série sur la dernière semaine de Jésus à Jérusalem, mais je vais quand même le reprendre. « Rendez donc à l'empereur ou à César ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, disons d'emblée, les interprétations que l'on a tirées de cette parole, en rapport avec notre thème, hein, ont été parfaitement contradictoires. Certains y ont vu le fondement de la laïcité, que l'État doit être laïque. Ça, c'est une approche plutôt protestante à la base, hein, vous aurez compris. Ou en tout cas, la distinction des deux règnes, hein, il y a le monde, il y a l'Église, on ne peut pas mélanger les deux, bon, si cher Martin Luther, mais avec plus de nuances, on le verra la semaine prochaine. Alors que d'autres y ont lu la suprématie absolue de l'Église, parce que tout appartient à Dieu, le monde compris. Alors pour d'autres encore, ben c'est Romains 13, hein, c'est le cas de Calvin, avec sa notion de soumission aux autorités qui fonde l'éthique sociale et politique dans son respect des pouvoirs constitués, voulus par Dieu, l'État étant voulu par Dieu, même s'il est imparfait, bien entendu, mais l'Église aussi, donc ça tombe bien. Alors pour d'autres encore, il faut se baser uniquement sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, et en tirer une éthique du royaume qui donne à l'Église sa spécificité au sein d'un monde où son rôle est de témoigner d'une réalité radicalement différente et nouvelle. Si nous revenons aux chrétiens du 1er siècle, la question sociétale leur est totalement étrangère. Alors, pas qu'ils n'en remarquent pas la réalité, hein, ils ne sont pas aveugles, ils savent très bien qu'ils vivent quelque part. Ils remarquent ce qui se passe autour d'eux. Mais bien parce qu'ils vivent l'Église comme un lieu d'apprentissage du royaume à venir. L'Église est leur seule réalité, ils savent que c'est le lieu du royaume. Ils ne sont donc pas concernés dans un premier temps par la société qui les environne et qui d'ailleurs, en retour, ne leur demande strictement rien. Au début, on les laisse plutôt tranquilles. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament parle énormément de responsabilité individuelle, mais ne s'intéresse pas vraiment aux questions proprement politiques ou économiques. Cette situation va progressivement changer au gré du temps qui passe et à mesure que les églises prennent de l'importance. Elles vont se multiplier dans l'Empire. Cette nouvelle donne sociale aura donc un impact sur le regard que les autorités vont porter sur les églises. Elles vont remarquer que ça pullule de plus en plus. Les églises vont jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'Empire romain, d'abord en tant que sujet de crispation, comme problème à résoudre pour certains empereurs, de là les persécutions envers l'Église, et comme nouvelle donne sociale à intégrer pour d'autres. D'autres vont dire, on peut-être arrêter les persécuter, parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Cet intérêt de plus en plus grand porté à la place de l'Église dans la société va avoir un effet peu prévisible au regard des persécutions que celle-ci a subies, puisque l'Église va devenir, étant donné sa présence croissante dans la société, un enjeu politique. Et ça va changer radicalement la situation. Elle va cesser d'être la communauté des disciples de Jésus pour devenir la fonction religieuse de la société. Ce qui signifie que toute la société, dorénavant, en fait partie de l'Église, qu'il n'y a plus aucune séparation entre le temporel et le spirituel, entre le ciel et la terre, et que l'Église est amenée à accompagner la société dans tous ses aspects et dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle la chrétienté. C'est notre premier modèle, le modèle donc transformiste. L'État est chrétien, la société est chrétienne, l'art est chrétien, etc., etc. Tout est chrétien. Alors cette approche repose sur la conviction que la société sera christianisée par l'action des chrétiens en son sein. Certains défenseurs de cette approche vont même jusqu'à affirmer que notre Seigneur ne reviendra sur terre que lorsque toute la société sera chrétienne. Est-ce qu'elle est longue, ça, quand même, hein? De manière symbolique, on peut situer le commencement de la situation de chrétienté à la conversion de l'empereur romain Constantin en 312. Les historiens s'interrogent encore, d'ailleurs, sur la véracité de cette conversion. Ils en doutent, certains en tout cas. Car beaucoup soupçonnent l'empereur de l'avoir fait à des fins politiques pour consolider son empire, celui-ci ayant été envahi par le christianisme. De là la nouvelle donne sociale. Alors, conversion ou pragmatisme politique ? Vous devrez choisir. Mais tout cela va en tout cas brouiller les cartes, non seulement au niveau de la lisibilité de l'Église quant à son rôle, son domaine d'action, son mandat, mais également au niveau de la ligne de démarcation entre l'État et l'Église. Où est-ce qu'on va tresser la ligne ? Quasi plus nulle part, quoi. Pour l'anecdote, je rappelle que les quatre premiers conciles de l'Église, pour traiter de problèmes de doctrine, furent convoqués par des empereurs. Ce ne sont pas les évêques de toutes les églises qui se sont dit « il faut qu'on se voie parce qu'il y a des problèmes de doctrine à régler ». Non, non, ce sont des empereurs successifs qui ont convoqué ces conciles. J'ai mis les conciles en question et les empereurs en note de bas de page. En tout cas, le premier concile, celui de Nicée en 325, a été convoqué par Constantin par rapport à la doctrine de l'humanité du Christ qui était combattue par certains. Nous sommes donc dans le mélange des genres, même si les empereurs ont légitimé la chose au nom de la bonne entente chrétienne dans l'Empire, qu'il en allait de leur responsabilité de convoquer ces conciles, parce qu'en tant qu'empereur, ils tenaient à ce que les églises s'entendent, quoi. Alors, pour information, les protestants ne reconnaissent que les quatre premiers conciles et pas tous les autres. Voilà, comme ça vous savez. Les quatre premiers, après, plus rien. Voilà, et on a bien raison, je pense. À la Renaissance, et avec la réforme protestante, la chrétienté éclate en plusieurs parties. Mais le principe demeure. On se tromperait en pensant que les réformateurs, ils ont une vision laïque de l'État. Ce n'est pas le cas. Qu'elles soient les églises catholiques, orthodoxes, luthériennes ou réformées, les églises considèrent qu'il est légitime pour elles d'être liées, d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, au pouvoir politique. Toute la société est chrétienne. Alors, bien entendu, pas chrétienne comme l'entend l'Évangile, bien sûr, mais elle se réclame du christianisme. On retrouve donc ici, en quelque sorte, le principe de l'Ancien Testament, de la séparation des pouvoirs entre l'État, régi par le roi, et le religieux, régi par l'Église. Mais dans les faits de séparation, il n'y en a pas vraiment. Nous sommes plutôt face à une lutte de pouvoir entre le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Pas pour rien qu'à un moment de l'histoire, il y a un pape qui a dû fuir Rome, quoi. Pour se réfugier en Avignon. On a quand même eu trois à un moment, mais pas en même temps. C'est très, très embêtant. Là, ça. Donc de nombreux rois n'auront de cesse de s'extirper de la domination du pape, en lui disant « mais occupe-toi de tes affaires », et de nombreux papes ne songeront qu'à imposer leur pouvoir aux États. Si l'Angleterre est devenue anglicane, c'est parce que l'Église a refusé d'agréer le divorce d'Henri VIII, de sa première femme, qui ne lui avait donné qu'une fille, pour cause de non-consommation. Oui, bon, voilà. Moi, je suis admiratif de ce qu'on osait faire à l'époque. Enfin, soit. Martin Luther aura même la vie sauve grâce à cette lutte entre les États et le pape, puisque les princes allemands verront dans le protestantisme naissant le moyen de se soustraire à l'influence de Rome, et accorderont donc leur protection aux réformateurs. Cependant, certaines églises sortiront de ce modèle de chrétienté par conviction, et ce, dès le XVIe siècle, certains protestants vont s'extirper du protestantisme classique, dit historique, à cause de ce lien avec l'État. C'est le cas, entre autres, des anabaptistes. Je précise quand même que beaucoup d'historiens sont d'accord pour dire que les évangéliques sont les descendants des anabaptistes. Au XVIIe siècle, les baptistes que nous sommes vont s'extirper de l'anglicanisme de l'époque pour les mêmes raisons. Et plus tard, on aura tous les mouvements des diverses églises libres qui manifestent le même désir de s'extirper de cette hégémonie de l'État ou de ce mélange des genres. Alors, toutes ces églises voulant simplement redevenir des communautés de disciples de Jésus ayant un témoignage spécifique à apporter à la société. Alors, cela vous surprendra peut-être au premier abord, tant nous avons été sans doute influencés en Europe par le siècle dit des Lumières. Mais certains rêvent de revenir à la situation de chrétienté et considèrent même que c'est là la norme idéale pour les relations entre l'Église et la société. Alors, cette vision est aujourd'hui principalement catholique, ça vous en doutiez un peu, ou orthodoxe, mais pas seulement. Certains aspects de ce modèle se retrouvent également dans d'autres courants de pensée, y compris dans le protestantisme évangélique. Je donne un exemple. Vu d'Europe, pose la question, est-ce que le messianisme américain, le mélange des genres que l'on retrouve aux États-Unis, ne vous surprend pas, honnêtement? Que l'on prie, par exemple, au moment de l'institution, de l'installation d'un nouveau président, par exemple. Qu'il prête serment sur la Bible. Alors, si ça tombe, il n'en a rien à faire de ce que la Bible dit. Cela procède du même modèle, en fait. Nous sommes chrétiens et ce que nous sommes doit modeler notre société. C'est une forme de chrétienté. C'est pour cette raison que la droite républicaine américaine célèbre les chrétiens qui excellent dans leurs affaires et dans leur travail et qui, grâce à cela, intègrent les sphères d'influence au sein du monde des affaires, des médias, du gouvernement, de la politique, du monde académique et des arts. Cela explique aussi pourquoi, encore de nos jours, aucun président ne pourrait être élu s'il se disait ouvertement athée. Aucun président américain, encore aujourd'hui, ne pourrait être élu président des États-Unis s'il se déclarait ouvertement athée. Ça ne passerait pas. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans ce, quand même, dans ce qui ressemble à l'américaine, hein, dans ce qui ressemble à un modèle de chrétienté. Et ça pose un éclairage également sur certaines pratiques, comme le fait que de puissants groupes d'influence, des lobbies, des groupes de pression, puissent verser des millions de dollars, en détournant au passage la loi américaine, parce qu'une loi stipule qu'on ne peut pas le faire, pour la campagne présidentielle d'un candidat qui se dit donc chrétien. Les républicains ne soutiendront jamais un candidat qui serait même allez, légèrement agnostique sur les bords, ou qui se dirait agnostique. Sans ma chanceté de ma part, Obama, il s'est souvenu qu'il avait un pasteur, il s'est souvenu qu'il allait vaguement à l'église quand il s'est lancé en sa campagne présidentielle. Avant, apparemment, il s'en passait très bien. Je ferme ma parenthèse. Peut-on être chrétien et soutenir le lobby des armes? Ben, aux États-Unis,
oui.
Ben oui. Donc, en tenant compte du modèle de chrétienté ou transformiste, on comprendrait également beaucoup mieux pourquoi, à la suite des attentats du 11 septembre, tout ça a tourné à une guerre contre l'Irak, à une guerre du bien contre le mal. C'est comme ça que Bush l'a présenté. Le bien étant détenu, et défendu, bien entendu, à coups de mensonges et de manipulations, par les États-Unis, le pays béni de Dieu, God bless America. Tout cela en enracinant toujours davantage le modèle de chrétienté dans sa vision du monde. À la suite de tout cela, ce sont également les pays musulmans qui ont été confortés dans leur vision de l'Occident, celle d'un Occident chrétien. Pour les musulmans, l'Occident est chrétien. Merci les States. Alors nous allons aussi nous rendre compte, en évoquant les différents modèles cités tout à l'heure, que mis à part les extrêmes dans tous ces modèles, la porosité entre eux est bien plus grande qu'on imagine. Ce n'est pas monolithique. Par exemple, à titre personnel, je ne partage pas l'approche transformiste ou de chrétienté, mais ça, à mon avis, vous en doutez un petit peu. Même pas du tout. Mais je peux en partager certaines pensées. Sur l'activité professionnelle, par exemple, je suis convaincu, et je le dis depuis bien longtemps, qu'un chrétien étant un témoin de Christ 24 heures sur 24, doit être ce témoin sur son lieu de travail aussi. Qu'il doit mieux faire son travail que les autres, car il est appelé à le faire comme pour son Seigneur. Je crois également qu'au travers de son activité professionnelle, le chrétien peut et doit amener l'Évangile sur son lieu de travail. Il sera peut-être dans ce cadre-là le seul chrétien que ces personnes n'auront jamais l'occasion de croiser. Que ce travail séculier est d'une importance capitale aux yeux de Dieu, car il porte en germe la possibilité du royaume pour ceux et celles qui croiseront la route de ce chrétien sur son lieu de travail. Mais ce que je ne crois pas, c'est qu'il faille absolument pénétrer toutes les arcanes des différents pouvoirs pour faire advenir le royaume sur la terre par notre travail, ni que l'objectif de l'Évangile soit la christianisation de la société. Et ça, je n'y crois pas une seconde, un texte en main. Il existe d'ailleurs bien des activités qui sont, à mon sens, incompatibles avec la foi chrétienne et qui ne pourront donc que tacher la belle robe blanche du chrétien qui la pratique. Je ne vais pas énumérer ces professions. Ça n'a pas trop de sens de le faire, en tout cas pas maintenant, pas dans ce cadre. Pour venir aux États-Unis, je ne pense pas, par exemple, qu'il soit bon pour un chrétien de briguer le siège de président si cela revient la plupart du temps à tuer des gens sous prétexte qu'on est du bon côté de la barrière morale. Parce que tuer quelqu'un, ça, c'est quand même tout simplement tuer quelqu'un. Et que le commandement « tu ne tueras pas » me paraît quand même légèrement explicite. Mais ça se tient de le faire, de revendiquer ce poste de président et de pouvoir éventuellement faire des guerres à partir de ce siège. Si je fais partie d'une nation chrétienne, en croisade pour l'avènement du royaume. Mais cela reste à mes yeux une caricature de théocratie. Alors l'Europe, les Européens que nous sommes peuvent témoigner de ça. L'Europe a été chrétienne durant plus de 1000 ans au moins. Elle a évangélisé à coups d'épée et de croisade, convertie par la torture et la pression, baptisée en menaçant de mort, hein, c'est ce qu'a fait Charlemagne après sa victoire contre les Saxons. Il dit, vous vous baptisez, vous devenez chrétien ou je vous fais tuer. Alléluia. L'Église a excommunié en Europe au nom de Dieu et précipité l'Occident dans un rejet de l'Église que nous payons encore aujourd'hui. Il n'y a pas un débat où j'ai participé dans le passé où on ne me ressortait pas les croisades, hein, entre autres, et l'Inquisition, etc. Et que je sois protestant, et que honnêtement, objectivement, les protestants n'ont pas vraiment fait grand-chose là-dedans, puisqu'ils n'existaient pas encore, ça n'a rien changé. Hein. Mais tout ça, cette chrétienté européenne, n'a jamais fait revenir notre Seigneur pour autant, et cela n'a jamais changé le cœur de ceux qui faisaient partie de cette chrétienté. Parce que quand tout le monde est chrétien, mes amis, plus personne ne l'est. Alors l'Église peut, et peut-être même le doit-elle, dénoncer ce qui à ses yeux ne va pas dans la société. Dans la chrétienté, forcément, on dénonçait certaines choses, qu'on s'arrangeait souvent, mais soit. Bon, le pape aujourd'hui, ben, dans sa vision du monde, il est dans son rôle quand du haut de sa chair, il dit ça va pas. Il me dit ça au monde entier, pas seulement catholique. Hein. Ça va pas. Parce qu'ils ont encore comme arrière-plan cette chrétienté médiévale. Mais je pense que nous devons faire quand même, interroger la société en tant que protestant. J'essaie de le faire de temps en temps, vous le savez. Mais je ne le fais jamais dans l'optique de changer la société. Mais bien de redire le mot de Dieu sur tous ces sujets et avertir ceux et celles qui en sont ou en seront les victimes, même inconscientes. Parce que ça, je pense qu'on est l'Église dans son rôle. Il ne s'agit donc pas de s'isoler et de ne jamais interroger ce qui se passe autour de nous sous prétexte que nous sommes chrétiens. Disons, bon, moi c'est l'Église, à la limite le monde. Hein. Si l'Église dénonce certaines idéologies, c'est parce qu'il y a derrière elle le mal en embuscade. On ne prend pas toujours conscience de l'élasticité du mal, de sa capacité à changer de forme. Et il n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il prend l'apparence du bien. La libération de la femme, comme nous le vendent, ou que nous la vendent plutôt les féministes, la libération sexuelle, la banalisation des mœurs, la lutte contre le racisme qui, en fait, est en train de devenir l'antichambre d'un communautarisme exacerbé, en sont, à mon sens, quelques exemples qu'il faut dénoncer. Ne fût-ce que pour que les chrétiens ne tombent pas dans ce genre d'idéologie. Et toutes ces idéologies, nous le savons, se diffusent dans notre société, sont enseignées à l'école, hein, nous ne faisons pas d'illusions, font partie de nos manuels scolaires et un jour feront la norme de notre société, s'ils ne la font pas déjà maintenant. Comme le disait Abraham Lincoln, la philosophie d'éducation d'une génération sera la philosophie du gouvernement de la suivante. Je pense qu'Abraham avait raison. Donc dans son rôle de dénonciation, l'Église est là pour rappeler aux hommes qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, tous les hommes, et qu'il existe donc une dignité à nul autre pareil en chaque être humain. Le chemin de salut ne passe donc pas par une société rechristianisée en surface, mais par des cœurs circoncis un à la fois par l'Esprit Saint, par l'Esprit de notre Seigneur. La chrétienté est avant toute chose un fondement historique. Le monde occidental a été chrétien, c'est-à-dire profondément imprégné de la pensée de l'Église, et ce durant tout le Moyen-Âge. Cette influence dominante de la religion sur la société est considérée par certains comme naturelle et souhaitable, puisque, disent-ils, elle est porteuse de vérité. Oui, mais de quelle vérité parle-t-on ? La chrétienté a pris des formes diverses à travers les âges. On peut donc dire qu'il y a eu plusieurs chrétientés. Et encore aujourd'hui, hein, quand j'ai fait allusion à l'approche un peu de la droite américaine, ou même de la société américaine dans son ensemble, ben c'est une des formes de cette chrétienté aujourd'hui. Et puis il y a celle des orthodoxes, celle des catholiques, etc. En tout cas, voici ce qu'écrit Jacques Maritain, philosophe catholique très important pour les catholiques, auteur de nombreux livres et adepte de la théologie de Thomas d'Aquin, le grand théologien médiéval. Voilà ce qu'il dit. « Il n'y a qu'une vérité religieuse intégrale, il n'y a qu'une Église catholique, il peut y avoir des civilisations chrétiennes, des chrétientés diverses. En parlant de nouvelle chrétienté, nous parlons donc d'un régime temporel, ici-bas, ou d'un âge de civilisation dont la forme animatrice serait chrétienne. » Donc il est toujours dans cette espérance, dans cette attente d'un renouvellement. La chrétienté, c'est la vision eschatologique de l'Église catholique. Tout doit finir par rentrer dans l'Église catholique. Tout. Comme une sorte de grand trou noir qui aspirait les chaises, les protestants, enfin tout ce qui se passe, tout ce qui l'entoure. Donc la grande question qui a entraîné différentes sortes de chrétienté a toujours été celle du rapport entre l'Église et le pouvoir politique. Parfois l'Église a cherché à dominer le politique. Ça a toujours été le rêve de la papauté. Souvent, le pouvoir politique a dominé l'Église, ça a été le cas pour l'orthodoxie grecque ou russe. Dans ses versions anglicanes, luthériennes ou réformées, le protestantisme est longtemps resté attaché à une telle conception sous des formes spécifiques que nous examinerons. Tous ces hommes, et il faut le rappeler, étaient aussi des hommes de leur temps, comme nous le sommes du nôtre. Est-on donc certain que c'est par attachement à la parole de Dieu que nous sommes, par exemple, attachés à la séparation de l'Église et de l'État? Ou sommes-nous simplement les héritiers de notre société sécularisée? C'est une bonne question, je pense, pour terminer aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.